Vous écoutez les Apatrides Anonymes sur les ondes de choc.ca, votre rendez-vous bimensuel pour tout savoir, ou presque, des enjeux d'immigration, de sécurité nationale et de racisme au Québec, au Canada et un peu partout dans le monde. Au programme de notre édition du 16 juin 2019, la citation raciste de la semaine, un dossier spécial sur les interventions secrètes de l'Agence des services frontaliers du Canada à l'étranger, la lettre du scénariste de bande dessinée Wilfrid Lupano, adressée au ministre français de la Culture, la soi-disant majorité forte de la CAQ et ses projets identitaires, et l'agenda antiraciste. Mais d'abord, on retrouve Mathieu avec les actualités fédérales.
Bonjour Marie-Ève, bonjour. Donc, je commence?
Bien sûr, micro est à toi.
Ok, parfait. Donc, on continue dans les Sunny Ways. Donc, pour le fédéral, on va être dans les os et voix brunâtres plus tard dans l'émission. Pour la CAQ, hein? Je vais parler, entre autres, de leur pseudo-majorité forte. Pour...
Oui, un de tes sujets fétiches.
Oui, de plus en plus, je deviens un peu obsessif. Donc, au niveau fédéral, plusieurs nouvelles dans les dernières semaines. Une qui est passée aussi un peu inaperçue, c'est pour ça qu'on en parle à l'émission, c'est un peu ça l'objectif. Les changements au niveau des pays d'origine désignés, qui a été une des grands faits d'armes de M. Jason Kenney dans sa grande et large réforme de l'immigration au début des années 2010. Donc, ce monsieur Kenney, avec Harper, avait fait une liste à l'époque de pays jugés sûrs, donc peu enclins à créer des réfugiés légitimes. Hein. On se rappelle, on avait beaucoup parlé dans nos chroniques à l'époque. Donc, 42 pays, rien de moins. Ces gens-là, donc, avaient un traitement spécial, devaient présenter leur demande plus rapidement, n'avaient pas le droit d'appel s'ils étaient refusés, et devaient attendre 6 mois pour obtenir un permis de travail. Fait que c'est très sympathique, c'était vraiment pour les décourager de déposer une demande d'immigration, d'asile. Et faut pas mélanger avec l'entente sur les tiers pays sûrs, c'est autre chose. Et il ne faut pas mélanger avec ce qu'il y a eu dans ce qu'il y a actuellement dans le projet de loi
Omnibus
sur le budget, où on parle là plus de pays où on ne peut pas faire une deuxième demande. On a déjà fait une demande dans ce pays, on n'a pas le droit de le faire au Canada si on a été refusé. Fait que là, tu sais, il y a beaucoup de choses ces temps-ci. Donc, mais finalement, le ministre a annoncé ça, le ministre Hussein, mon ministre préféré fantôme, Ahmed Hussein. Donc, finalement, l'efficacité et la rapidité du traitement des demandes n'étaient pas au rendez-vous, exactement, merci. Donc, a décidé finalement de laisser tomber, entre autres pour ça. Il dit aussi que le changement apporté par ses prédécesseurs n'avait pas en outre réduit le nombre de demandes provenant des pays désignés. Donc, même malgré toutes ces obstacles-là qui décourageaient les gens en déposent quand même des demandes de réfugiés. Et le vérificateur général du Canada rapportait, il y a 2 semaines, que la commission de l'immigration, statut de réfugié, n'a traité ses demandes des pays sûrs, donc d'origine désignée, seulement dans 25% des cas. Fait que l'argument de la rapidité, que ça devait être plus facile et plus simple, ça non plus, seulement 25% de ces demandes-là ont été traitées plus rapidement. Mais ça, il y a d'autres raisons à ça, évidemment. Beaucoup de gens qui défendent les droits des migrants, des réfugiés, se réjouissent, mais disent que le gouvernement aurait pu faire ça au début de son mandat, évidemment, parce que, entre-temps, la Cour fédérale a déclaré à l'été 2015 que l'impossibilité de faire appel était inconstitutionnelle. Donc, déjà là-dessus, c'était tombé. Ensuite, récemment, il y a quelques mois, le délai de 3 ans avant que les demandeurs puissent avoir un droit à
l'étude de risque avant renvoi.
Oui, étude ou examen des risques avant renvoi. Ouais. Ça, je ne l'ai pas dit tantôt, mais c'était un autre élément qui avait été, un autre obstacle qui avait été mis sur leur route. Donc, ça a été invalidé aussi, que ça ne devait pas prendre 3 ans avant qu'on fasse l'étude. Il allait déjà être déporté, évidemment.
Juste rappeler aux gens peut-être que l'examen des risques avant renvoi, c'est si jamais vous êtes déporté ou renvoyé dans votre pays d'origine, on étudie si vous faites vraiment face à des risques de persécution.
De torture, de mort, torture. Exactement. Donc, c'est souvent relié à une demande humanitaire aussi, souvent. Donc, déjà, les cours avaient validé ces articles-là de cette partie-là de la loi sur l'immigration et le statut de réfugié. Et en plus, il y avait un jugement qui s'en venait sur le délai pour obtenir un permis de travail qui était, on se rappelle, de 6 mois. Donc, la loi, elle avait tout été défaite par les tribunaux. Et là, le ministre arrive en disant « Je l'enlève, je vous ai écouté. » Donc, ça fait un peu pic-pic, évidemment. Donc, les gens, autant l'Association canadienne des avocats des droits des réfugiés que le Conseil canadien pour les réfugiés disent que de toute façon, autant au niveau de la justice que de l'efficacité au niveau des droits, ça fonctionnait pas comme système. Et les taux d'approbation des réfugiés de ces pays désignés-là étaient aussi élevés que ceux qui viennent dans des pays autres qui sont supposément des vrais réfugiés. Fait que finalement, c'était tout, c'était n'importe quoi.
C'était non, vraiment. C'est comme une catégorie.
C'est un échec total, bidon, une erreur monumentale, c'est bidon. Et peut-être pour les gens qui se le demandent, en terminant, ben, les pays d'où venaient ces gens-là, les 42 pays, ça comprenait entre autres la Hongrie. On a beaucoup entendu parler avec les Roms. Le Mexique aussi, hein, où il y a, tout va bien là-bas. Il n'y a pas de raison de demander le refuge au Canada. Et évidemment, des pays, comme la République tchèque, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Chili, le, bon, etc. Et peut-être dire que ces 42 pays-là représentent 12% seulement des demandes, 12% du total des demandes de réfugiés au Canada. Donc, c'est pas vraiment quelque chose de, tu sais, de, pourquoi faire une politique spéciale pour les empêcher? C'est vraiment pas un problème. Donc, ben, voilà. C'est une bonne nouvelle, mais finalement, on annonce ça en catimini à la fin du mandat, après que les tribunaux aient invalidé tout ça, donc on peut pas dire que...
c'est une fausse bonne nouvelle.
Une fausse bonne nouvelle, puis c'est, ben, c'est un ministre fantôme, donc ça va...
Il
fait des annonces un petit peu qui tombent de nulle part. Donc voilà pour cette... un beau coup de la semaine, une nouvelle fédérale, les Sunnyways.
On revient bientôt avec dans quelques minutes avec Simon pour la citation raciste.
Et oui, c'est Simon au micro. Bonjour, j'ai pas eu l'occasion de vous dire bonjour. J'étais à la console en train d'essayer de faire fonctionner cette émission.
Bonjour Simon.
Allô. Donc, toujours sur choc.ca, l'émission des apatrides anonymes, c'est la citation raciste du jour. On reste un peu dans la suite de ta revue d'actualité, Mathieu, dans notre palier préféré. Le fédéral.
Moi, c'était le Sénat la semaine passée. Toi, c'est la Chambre des communes.
Oui, ben, c'est le même bâtiment. Est-ce que c'est encore le même bâtiment?
Ah, ben, là,
parce qu'il y a
travaux.
Des travaux.
Écoute, je sais pas. La Chambre basse, la Chambre haute.
Des préoccupations importantes ici. Donc, ça date quand même d'il y a au moins deux semaines, mais c'est assez particulier. C'est pas tant une citation raciste qu'un comportement, oui, raciste, mais surtout complètement déplacé, inacceptable, hallucinant. Il s'agit d'un très jeune député conservateur de St. Albert Edmonton, le très honorable Michael Cooper. En commission parlementaire à Ottawa, dont le sujet est la propagation de la haine sur Internet, il y a eu un échange un peu musclé avec un témoin, M. Khan Suri, qui est président de la Alberta Muslim Public Affairs Council, une sorte de congrès musulman provincial albertain. Donc, M. Khan Suri parlait du fait que la police a trouvé dans l'ordinateur du terroriste de la mosquée de Québec, Alex Bissonnette, des centaines de traces de recherche de contenu anti-immigration, de racistes, de textes racistes, de personnes influentes dans la fachosphère, des assassins, de Trump, etc. Donc, Michael Cooper, le député, a fini par répondre en lui lisant des extraits du manifeste du terroriste d'extrême droite de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui a fait 50 morts, rappelons-le. Donc, un texte, évidemment, qui est interdit de publication et dans plusieurs pays. Donc, je sais pas si vous imaginez un peu l'arrogance et la violence de ce petit député baveux qui a probablement rien vécu de sa vie à part des soupers spaghetti chez les Shriners. Là.
Et qui joue au polo sûrement aussi, ouais.
Oui, qui joue au polo dans une tenue repassée par maman. Et qui balance ça en pleine commission parlementaire, un texte haineux, profondément anti-musulman à un musulman. Donc, je voulais juger. Moi, je trouve ça un petit légèrement déplacé.
Déplacé. Arrogant, comme tu dis, ouais.
Ouais, c'est ça. Donc, Andrew Scheer, notre bonhomme Playmobil numéro 2.
Ouais, bonne.
Dans un rare instant de lucidité, a exclu le petit moron du caucus, ce qui l'empêche quand même pas de siéger comme indépendant maintenant. Un petit aparté, oui, actuellement, un comité parlementaire à Ottawa qui étudie la haine sur Internet, donc ça fonctionne comme commission, comme toute commission parlementaire, donc c'est des témoignages, ça s'étale sur plusieurs jours, et le mandat est de faire des propositions législatives pour le gouvernement, donc à suivre, peut-être qu'il va y avoir quelque chose d'intéressant là-dessus. Et je me permets une petite micro-minute supplémentaire pour une citation plus surréaliste que purement raciste, ça nous vient de Ken Pereira, c'est un syndicaliste libertarien, si ça se peut, qui aurait été approché par la CAQ, mais qui finalement sera candidat aux prochaines élections pour le parti de Maxime Bernier. On écoute ça.
Les Allemands avaient une base sur l'Antarctique pour se cacher. Et la deuxième base qu'il y avait, c'était où? C'était sur la Lune. Parce qu'il y avait de l'aide des extraterrestres pour se cacher. Là, tu reviens à qu'est-ce que Schroeder a dit en 1800, non, ce que Schroeder a dit en 1800, qu'il y avait des villes lunaires où Leonardo da Vinci disait, écoute, il y a du monde qui habite là, on voit. Il y a une thèse qui forme autour que les nazis ont fait après qu'ils ont perdu ou pendant qu'ils se bâtissaient quelque chose, ils se bâtaient un plan lunaire ou une... OK?
Donc, j'ai pas vraiment...
J'ai pas compris.
Ben, moi non, ben... Qu'est-ce que t'as pas... En tout cas...
Ben, de quoi il parlait?
Ben, il parle des nazis qui avaient une base lunaire aidée par les extraterrestres.
C'est... Ah, il dit ça, c'est sérieux, là?
C'est sérieux.
OK, OK.
Ouais, c'était dans, au studio d'un haineux, là, stupitre, quelque
stupid.
Chose. Voilà, c'est ça. Donc, on va y aller avec quelque chose d'un peu de meilleur goût avec ben, Navet Confit. De l'album Engagement, Lutte, Clan et Respect, c'est la pièce « Pourquoi es-tu fâché comme ça? » Bonjour, l'émission des Apatrides Anonymes sur choc.ca. On écoutait « Pourquoi es-tu fâché comme ça? » de Navet Confit. Simon au micro, mais je suis pas seul. Je suis avec mes deux acolytes pour faire une sorte de table ronde sur l'Agence des services frontaliers qui mène, et ça c'est moins connu, des opérations plus ou moins secrètes à l'étranger. Ça fait suite à un dossier pas mal complet qui a été publié initialement par Radio-Canada sous le titre « Le côté secret de l'opération canadienne contre les migrants ». Ça a été publié fin mai. Je disais que c'était moins connu comme type d'opération. Oui, effectivement. C'est plus ou moins connu de la population que l'Agence des services frontaliers mène des opérations dans d'autres pays, mais l'existence du programme, elle est quand même publique. Ce qui est secret, c'est plus le mode d'opération, la nature des opérations. Donc, dans ce dossier fort intéressant, sorti fin mai, on lève le voile sur beaucoup d'aspects très troublants de ces opérations canadiennes en Afrique, en Asie et ailleurs, avec entre autres des témoignages anonymes d'employés fédéraux. Peut-être juste rappeler que l'Agence des services frontaliers, sa mission première, c'est le contrôle frontalier des frontières terrestres, maritimes, aériennes, la circulation des personnes, des marchandises, etc. Elle a aussi le pouvoir d'arrêter et de détenir des personnes. Par contre, normalement, cette juridiction s'arrête aux limites du territoire canadien où commencent les juridictions des autres États. Donc ça, ça va de soi, normalement. En soi, le fédéral mandate une agence pour opérer à l'étranger. Ben ça, c'est quand même assez inusité comme fait. Donc on va se replacer un peu dans le contexte. Après l'arrivée à Vancouver en 2010 de deux bateaux, l'Ocean Lady et le Sun Sea, qui transportaient des demandeurs d'asile sri-lankais, Stephen Harper décide de capitaliser là-dessus, évoque le terrorisme, excite bien comme il faut sa base électorale. Il parle d'évasion, qui ferait tout pour empêcher l'arrivée d'autres bateaux remplis d'illégaux, terme que je mets en guillemets, mais que lui utilisait un terme raciste complètement inapproprié que Stephen Harper utilisait abondamment tout au long de son règne. Il va donc mettre en place ce qu'on appelle encore aujourd'hui la stratégie canadienne de prévention du passage de clandestins. Donc ça, c'est le nom officiel du programme qui se poursuit actuellement sous le gouvernement Trudeau, qui en consacre encore plus d'argent que sous les conservateurs. Donc c'est de l'ordre d'à peu près 18 millions par année actuellement. Donc M. Harper voulait bloquer les bateaux à la source dans leur pays de départ et que les responsables des réseaux des passeurs soient traduits en justice dans ces pays-là. Donc il souhaitait que le programme serve à aider, autre terme que je mette en guillemets, à aider les pays d'où partaient les bateaux à resserrer leur surveillance et à légiférer sur ce phénomène-là avant que les bateaux ne prennent la mer avec les migrants à leur bord. Donc, on va en parler avec Marie-Ève, mais il semble que les taux... Non, on en parle avec Mathieu. Ensuite, excusez-moi, petite erreur. Il semble que les taux d'interception de bateaux et d'inculpation des passeurs en vertu du programme sont très bas. Alors, on va se demander un peu pourquoi ce programme-là, qui continue à être grassement financé et qui semble pas fonctionner très bien, est-il reconduit année après année? Que fait-on exactement dans le cadre de, je le répète, la stratégie canadienne de prévention du passage des clandestins? Donc, Mathieu, éclaire-nous peut-être un peu sur ce nébuleux programme fédéral. Je vais te céder le micro.
Ben écoute, selon Monsieur Ward Elcock, qui était l'ancien haut responsable de l'opération entre 2010 et 2016, selon lui, le but était d'empêcher des bateaux de migrants de partir pour le Canada, mais impossible, soutient-il, de savoir combien la mission canadienne a pu en déjouer. Donc, ça commence un peu mal au niveau des chiffres. Tout un bilan, d'ailleurs. Deux bateaux interceptés en 6 ans. 5 passeurs inculpés pour des infractions mineures. Donc, est-ce que cela justifie les quelques 75 millions de dollars dépensés pendant ces 6 années-là, je rappelle 2010 à 2016, pendant que M. Elcock dirigeait l'opération, en plus des 46 millions injectés depuis 2016 par Trudeau? Selon lui, donc M. Elcock, je ne sais pas pourquoi il a accepté d'ailleurs de faire une entrevue là-dessus, parce que c'est pas très très reluisant. La mission cherchait surtout à gêner des projets avant qu'ils ne se concrétisent. On voyait des gens se rassembler vers un possible lieu de départ. On voyait quelqu'un acheter un système de purification d'eau pour fournir de l'eau potable au milieu de l'océan, ou encore un téléphone satellite. Il y avait ce genre d'indications auxquelles les gens, les Canadiens à l'étranger, pouvaient se fier pour savoir qu'un projet était en planification.
Donc, ça, c'est du renseignement, ça.
Oui.
À son meilleur.
Monsieur Elcock, un top... comment on dit en anglais?
Espion?
Un top intelligence.
Ah,
c'est ça. Il se souvient, Monsieur Elcock, notamment, et je le cite, « Nous savions qu'ils étaient intéressés par un bateau. Nous avons envoyé assez de monde s'activer autour du bateau pour faire fuir les gens. » Je ne sais pas s'il y avait des crécelles et puis des pétards.
Et vous êtes là?
Des sirènes.
Fait que c'est un petit côté... un peu comico-tragico dans son histoire. Donc, M. Elcock ne peut chiffrer le nombre de projets que l'opération canadienne aura entravé, mais il se dit convaincu de l'importance de la mission. Il rappelle qu'aucun bateau de migrants n'est parvenu jusqu'aux rives canadiennes après le MV Sun Sea, dont tu parlais. Mais ça, il y a peut-être d'autres raisons que les ajustements à l'étranger des fonctionnaires fédéraux. Il ne faut pas se leurrer quant au véritable but de la mission que mènent le Canada et d'autres pays à l'étranger, selon François Crépeau. Monsieur Crépeau, selon lui, l'objectif, c'est d'arrêter les migrants avec ce genre d'opération. On n'en veut plus. On ne tient pas compte du fait que beaucoup de ces migrants sont des réfugiés qui ont besoin de passer et qui vont payer des prix de plus en plus chers en argent, mais parfois au prix de leur vie. Donc, Monsieur Crépeau, qui est prof à l'Université McGill, les passeurs existent parce que les pays ferment leurs frontières. On sait que l'interdiction de passer cause ou fait que cette industrie existe. S'il n'y avait pas de blocage aux frontières, il n'y aurait pas de passeurs, évidemment. Le gouvernement Trudeau, qui maintient la ligne dure, donc continue la même politique que Harper contre les passeurs, justifie cette approche. Et là, on va lire quelques lignes de novlangue et de discours idéologiques. Selon un porte-parole d'Affaires mondiales Canada, les réseaux de trafic illicite de migrants constituent un risque pour la sécurité nationale du Canada. En essayant délibérément de contourner les contrôles aux frontières, ils peuvent permettre aux terroristes et aux personnes liées au crime organisé d'entrer au Canada. Ces réseaux criminels mènent leurs activités dans un but lucratif, sans égard à la vie et la sécurité des personnes.
Ce qui n'est pas faux non plus.
Non, non, mais attends.
Okay.
Et ils risquent de miner la confiance du public en notre système d'immigration ouvert et juste.
Ah, ben ça.
Ah, c'est ça.
Quand même. Donc, c'est un peu blablabla. Bla, bla. Donc, nous avons parlé, ben nous, ça c'est les gens de Radio-Canada, ont parlé à une dizaine de personnes qui ont participé à l'opération. Plusieurs ont dû partager la crainte du gouvernement, l'affaire des terroristes, des criminels, mais ceux qui ont eu un contact direct avec des migrants qui essayaient de traverser l'océan ou de venir au Canada estiment que la plupart étaient de véritables, entre guillemets, réfugiés, fuyant la persécution dans leur pays. Car on sait que les migrants qui se retrouvent coincés durant leur périple, quand le passeur est intercepté, ils sont habituellement confiés à l'Organisation internationale pour l'immigration ou au Haut Commissariat pour les réfugiés, en vertu d'une entente, en vertu d'une entente avec Immigration Canada. Donc, le ministère des Affaires étrangères a versé plus de 9 millions de dollars en 2018-2019 pour mieux outiller les pays qui l'aident dans sa lutte contre les migrants clandestins. Toutefois, le ministère refuse d'identifier les pays bénéficiaires officiellement, même si dans l'enquête, ça a été deviné avec toutes les recherches qui ont été faites, ainsi que le type d'équipement offert et les formations données.
Mais les l'équipement, c'est ça, c'est les crécelles.
Les crécelles, les pétards. Mais tu vas voir, il y a deux, trois petites autres choses un peu plus chères. Donc, des documents, bon, donnent un aperçu de la façon dont les millions ont été dépensés en Asie du Sud-Est, mais en Afrique et aussi en Afrique de l'Ouest. Des radios, de l'équipement de com, des appareils de repérage GPS, de l'équipement d'écoute, des véhicules de surveillance, des bateaux d'intervention rapide, des Zodiac, entre autres, ont été remis à la police thaïlandaise. Et la GRC note les risques associés au partage de ce type d'équipement. Ça peut détourner vers le marché illicite et l'utilisation inappropriée peuvent être un risque aussi associé à ce genre de projet. Mais la police thaïlandaise a reçu des cours en surveillance et en technique spéciale d'enquête basée sur des opérations d'infiltration et a eu aussi des cours d'éthique aussi sur comment utiliser, comment traiter les migrants.
Ils ont eu les cours d'éthique après les grandes répressions, je pense, de fin 2010.
Oui, depuis que l'armée a repris le pouvoir par un coup d'État en Thaïlande. Ça, on n'en parle pas dans l'article, mais on peut quand même le dire. Donc, c'est beaucoup en Thaïlande que ça se passe. Donc, l'ancien grand patron, M. Elcock, on revient à lui, reconnaît que le respect des droits de la personne est toujours une préoccupation lorsqu'on travaille avec certains pays. Et honnêtement, je le cite, là, ça c'est vraiment génial. Honnêtement, je ne voudrais pas passer du temps dans une prison thaïlandaise, même pour possession de faux papiers. Mais il s'empresse d'ajouter, cela dit, au bout du compte, je ne suis pas au courant de quelqu'un qui aurait passé beaucoup de temps dans une prison en Thaïlande, même pour une accusation comme celle-là.
Okay. Mais ça veut rien dire.
Non, non, c'est fou.
Ça. Comme je ne sais pas, donc ça existe peut-être
pas. Ça existe
pas.
Puis voyons donc. Et en terminant, je termine là-dessus. Selon lui, le Canada en a eu pour son argent. C'était frappant de voir comment de simples choses comme l'achat de petits Zodiacs pour la police étaient énormément utiles pour eux et pour nous. Conclut-il. Monsieur Elcock, hein,
merci,
tout un numéro.
Monsieur. Oui, oui, ça nous éclaire beaucoup. Ben, quand même, avec tous les indices qui ont été rassemblés, ça nous donne une bonne idée de ce programme-là, comment il pouvait fonctionner.
Non, mais pour monsieur Elcock, en plus, c'est tout va bien dans le meilleur des mondes, là.
Ben, lui, je souhaite une bonne suite de carrière dans l'intelligence, comme on disait tantôt, mais. Donc, on revient au fait que cette aide-là qu'on fournit à l'étranger, qu'elle soit technologique, logistique ou simplement financière, on la donne à des régimes souvent réputés extrêmement corrompus. Ça pourrait être détourné pour surveiller des minorités, des opposants politiques, des journalistes, des étudiants, chose que M. Elcock dit « j'ai pas vu, sûrement ». C'est très problématique qu'on pourrait en venir à parler de violations des droits de la personne qui sont directement commises avec notre financement, avec notre soutien, notre équipement et notre expertise. Donc, grâce au Canada, et ça, en plus, sans système d'évaluation fiable et transparent, puisqu'on est en terrain sécuritaire très sensible, dans le cadre d'opérations secrètes. Donc, même ce que le SCRS fait, par exemple, à l'intérieur du Canada, on a une apparence de comité de surveillance, mais imaginez ce qui se passe à l'étranger. Donc, on a parfois des exemples extrêmes. Marie-Ève, tu peux peut-être nous en parler un peu?
Oui, effectivement. Bon, évidemment, on se doute là que les services de renseignement canadiens mènent ce genre d'opérations-là, tu sais, mais ce qui peut faire un peu plus sourciller, c'est d'entendre que l'Agence des services frontaliers du Canada mène ce genre d'opérations-là. Faut dire qu'à l'étranger, les policiers canadiens n'ont pas le droit de faire des perquisitions ou des arrestations, évidemment. Donc, s'ils veulent mettre la main au collet soit de présumés passeurs ou d'intercepter des migrants et des migrantes, ils n'ont pas le choix de s'en remettre aux forces de l'ordre sur place. Et pas besoin de se taper des séries en boucle sur Netflix pour se douter que des opérations dites secrètes à l'étranger impliquent souvent, comme tu le disais, Simon, de collaborer avec des régimes douteux ou des individus, disons, peu fréquentables. Et le cas qui nous occupe, non seulement ne fait pas exception, mais on parle même de crimes contre l'humanité. Donc, dans le cadre de son reportage, Radio-Canada a obtenu une entrevue exclusive d'un ancien employé fédéral qui a suivi de près la vaste opération internationale déployée par le gouvernement Harper pour empêcher des bateaux de migrants de se rendre au Canada, et qui raconte que ses valeurs ont été heurtées quand il a appris que le Canada travaillait main dans la main avec un colonel inculpé de crimes atroces en Guinée. On va se remettre un peu dans le contexte de l'époque. Le gouvernement Harper avait alors dépêché des équipes sur le terrain en Asie du Sud-Est et en Afrique de l'Ouest pour entraver, comme on le dit depuis tout à l'heure, les réseaux de passeurs de migrants. Ces équipes-là se sont retrouvées, entre autres, en Indonésie, en Thaïlande, en Malaisie, au Ghana, au Togo, au Bénin et en Guinée. Elles étaient formées d'agents de la Gendarmerie royale du Canada, on l'a dit, de l'Agence des services frontaliers, des services de renseignement, de sécurité, avec l'appui du Centre de la sécurité des télécommunications. Évidemment, le ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration participait eux aussi à cette stratégie-là, qui était chapeautée par un conseiller spécial du premier ministre. Donc, en Guinée, c'était le colonel Moussa Diegboro Camara qui était le principal allié du Canada. C'était à l'époque le grand responsable de la lutte contre le trafic de drogue, la criminalité organisée et le terrorisme. Donc, en 2012, soit à la même époque où le Canada débarquait en Guinée, le colonel Camara est inculpé relativement à un massacre au stade de la capitale, qui est Conakry, qui était survenu 3 ans plus tôt, soit en 2009. Plus précisément, le 28 septembre 2009, plus de 150 personnes sont assassinées, des centaines d'autres torturées ou maltraitées, et plus de 100 femmes violées brutalement lors d'une manifestation qui était pourtant pacifique dans le stade. Le procès du colonel n'a pas encore eu lieu à ce jour. Et puis en 2009, donc, il y a une commission d'enquête internationale mise en place par l'ONU qui a identifié le colonel Camara comme étant un des responsables de ce carnage-là et a qualifié les atrocités de crimes contre l'humanité. Le Conseil de l'Union européenne avait aussitôt adopté des mesures restrictives à l'encontre de la Guinée et des présumés responsables du massacre. Alors, on revient à M. Ward Elcock, qui était l'ancien grand patron de cette stratégie. Lui, il nie que le colonel Diegboro Camara ait joué un rôle dans la mission canadienne. Il dit se souvenir vaguement de lui, en lien avec une opération pour rapatrier un Canadien d'origine sri-lankais qui trempait dans le trafic de migrants en Guinée. Mais, selon une autre source canadienne proche de la mission, pour empêcher des migrants de venir au pays, le colonel Diegboro était la personne en charge, en fait, du côté guinéen. Et cette source le qualifie même de bras armé de cette opération, ajoutant que c'était le colonel même qui procédait aux arrestations quand il le fallait. Le colonel Diegboro Camara, que Radio-Canada a réussi à joindre à Conakry, reconnaît lui-même avoir travaillé avec le Canada et d'autres pays également pour démanteler des réseaux de passeurs. Il raconte que lorsqu'il gérait une crise dans une forêt éloignée en Guinée, son gouvernement avait dépêché un hélicoptère pour le ramener dans la capitale pour qu'il puisse prêter main-forte aux Canadiens qui s'y trouvaient. Il va même, M. Camara va même jusqu'à s'offusquer, imaginez-vous donc, du fait que certains soutiennent qu'en raison du massacre au stade, le Canada aurait pas dû travailler avec lui. Selon lui, le dossier est devant les tribunaux et jusqu'à preuve du contraire, inculpé ne veut pas dire que la personne est coupable. Ward Elcock, lui, maintient que, de toute façon, la Guinée n'était pas un point central de l'opération qui ciblait alors principalement les Tamouls du Sri Lanka. Donc, il estime que seulement environ 30 migrants sri-lankais ont été retrouvés en Guinée, alors qu'il y en aurait eu plus que 200 ou 300 en Afrique de l'Ouest. Pourtant, selon des rapports de frais de voyage, M. Elcock s'est rendu au moins 4 fois en Guinée de 2012 à 2014, entre autres pour remercier le gouvernement guinéen de sa collaboration dans la lutte contre le trafic des migrants. Il a réclamé, entre autres, plus de 3 700 $ pour une réception à Conakry le 11 juin 2014 qui rassemblait une soixantaine de convives et 12 représentants du gouvernement canadien. On parlait d'équipement tout à l'heure, entre autres pour la Thaïlande. Il y a des documents qui indiquent aussi que le Canada a fait réparer des voitures de la police guinéenne, a modernisé les postes de contrôle à la frontière du Mali et de la Sierra Leone, en plus de financer une partie des rénovations du centre des opérations maritimes en Guinée. Donc, si on résume, là, le Canada a jugé que collaborer avec un homme inculpé pour atrocité et crimes contre l'humanité pour appréhender une trentaine de migrants en Guinée, dont on ne sait d'ailleurs pas si c'était des passeurs, était légitime et justifié. C'est une chose est sûre, c'est qu'on voit où les, jusqu'où les autorités canadiennes sont prêtes à aller pour fermer les frontières du pays. Et je dirais que devant ce portrait de la situation-là, c'est vraiment difficile de ne pas être cynique devant de telles politiques. Et quand on sait que le gouvernement Trudeau travaille encore aujourd'hui avec les autorités locales de pays étrangers pour entraver, interdire et dissuader les opérations de passage de clandestins, c'est plutôt inquiétant et troublant.
Merci, Marielle. C'est effectivement très dérangeant. Cet exemple-là du colonel en Guinée est particulièrement troublant. On peut malheureusement présumer, comme tu le disais à la toute fin, que c'est peut-être pas le seul cas d'association entre le Canada et de très grands criminels, puisque Radio-Canada n'a réussi à obtenir que quelques témoignages éparpillés, mais on n'a pas l'ensemble du portrait de qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de ce programme-là. Donc, c'est comme si le Canada cherchait un peu à associer son image ou ce qui concerne les tentatives de migration vers son territoire aux atrocités de la guerre. C'est probablement le message qu'on cherche à induire dans la tête des gens. Donc, migrer vers le Canada égale violence, mort, viol et souffrance de toutes sortes. C'est difficile de trouver peut-être méthode de dissuasion plus violente que ça. Les gens se parlent, les gens savent que telle personne qui fait la lutte aux passeurs et aux migrants au nom du Canada a participé à des affaires épouvantables qui ont touché leur famille, un cousin, une voisine, un collègue, etc. Malgré tout, les gens continuent à migrer, même si les pays riches font tout en leur pouvoir pour les empêcher d'atteindre leurs frontières. Donc, on va financer, armer, entraîner, équiper des forces de sécurité dans des pays où il n'y a pas de garantie de respect des droits de la personne et donc favoriser encore plus un climat de violence, voire de guerre civile, que lui-même pourrait faire de faire fuir les populations civiles et les pousser à demander refuge chez nous. Est-ce que quelqu'un va finir par allumer que c'est non seulement immoral et méchant, mais aussi que c'est complètement contre-productif et inefficace en regard de l'objectif qui est justement d'éviter d'avoir à faire face à de grandes migrations? Donc, si on regarde les grands discours, les grandes tendances actuelles au Québec, au Canada, il semble que non, on ne soit pas prêt d'allumer. Merci Mathieu, merci Marie-Ève d'avoir pris part à ce dossier complexe. J'espère que les gens ont bien saisi l'ampleur du phénomène. On va aller en musique maintenant.
Merci à toi, Simon, pour avoir préparé cette discussion.
Ben, ça fait plaisir.
Et on dit aux gens qu'ils peuvent le trouver au complet, le dossier, avec des photos sur le site de Radio-Canada.
Effectivement.
Merci. Thank you.
Donc, on fait maintenant une première à l'émission des Apatrides anonymes. On va vous faire une petite lecture. Donc, pour mettre en contexte, il s'agit de la lettre qu'a signé le BDiste Wilfrid Lupano pour signifier à Emmanuel Macron et ses ministres son refus du grade de chevalier des arts et des lettres de la France. La lettre s'intitule « Chevalier, moi ». Non, merci. Donc, je vais simplement, je vais vous la lire en entier, mais je vais couper les extraits qui parlent d'environnement et d'austérité pour me concentrer davantage sur les parties qui parlent de sécurité et migration. Musique, s'il vous plaît. Monsieur le ministre, à ma très grande surprise, vous m'avez adressé la semaine dernière un courrier pour m'annoncer que vous me décerniez le grade de chevalier des arts et lettres. Je vous remercie de cette délicate attention, mais j'ai bien peur de devoir refuser cet honneur. Déjà, spontanément, je n'ai jamais été très excité par les médailles. Pierre Desproges disait « Les décorations, c'est la libido des vieux ». Je me plais à penser que je n'en suis pas encore là. Il y a cependant des distinctions plus réjouissantes que d'autres et celle-ci a l'inconvénient, Monsieur le ministre, d'être remise par un représentant politique. » Or, comment accepter la moindre distinction de la part d'un gouvernement qui, en tout point, me fait honte? Car oui, il s'agit bien de honte. J'ai honte lorsque votre gouvernement refuse d'accueillir l'Aquarius et ses 160 réfugiés qui demandent de l'aide, et encore plus honte lorsque M. Castaner accuse les ONG qui tentent par tous les moyens de sauver des vies d'être complices des passeurs. J'ai honte lorsque je vois la police escorter les militants de Génération Identitaire après leur coup de com' au col de Briançon pour les protéger contre les militants favorables à l'accueil des réfugiés. Certains de ces derniers furent d'ailleurs interpellés alors que tous les membres de Génération Identitaire sont rentrés chez eux fêter leur coup de publicité. J'ai honte de votre politique indigne d'accueil des migrants et en particulier des mineurs isolés. Le gouvernement auquel vous appartenez a accéléré le rythme des expulsions, voté l'allongement à 90 jours de la période de rétention pour les étrangers en situation irrégulière. De la prison, donc, pour des personnes n'ayant commis aucun crime, hommes, femmes, enfants et même nouveau-nés. Pendant ce temps, des préfets plusieurs fois condamnés pour non-respect du droit d'asile sont maintenus en poste. J'ai honte de l'incapacité de ce gouvernement à prendre en compte l'urgence écologique qui devrait pourtant être le seul sujet à vous préoccuper vraiment. J'ai honte de voir depuis des mois partout en France éclater des yeux, exploser des mains ou des visages sous les coups de la police, de Notre-Dame-des-Landes aux Champs-Élysées à Toulouse, Biarritz, Nantes. Le monde entier s'alarme de la dérive sécuritaire de votre gouvernement, de l'utilisation abusive d'armes de guerre dans le maintien de l'ordre, mais vous, vous trouvez que tout va bien. Je pense à Maxime Peugeot, 21 ans, et à sa main arrachée par une grenade dans un champ de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qui pouvait bien menacer à ce point la sécurité de la France dans ce champ à vaches du bocage breton pour qu'on en arrive à faire usage d'une telle violence? 2500 gendarmes, une opération de guerre à plusieurs millions d'euros menée pour détruire une trentaine de cabanes en bois et procéder à une dizaine d'expulsions. Je pense à Lola Villabriga, 19 ans, défigurée à Biarritz par un tir de lanceur de balles de défense, que rien ne justifiait et qui vit désormais avec des plaques d'acier dans la mâchoire alors que c'était sa première manifestation. Je cite deux noms, mais vous le savez sûrement, ils sont aujourd'hui des centaines. Suivez le travail de David Dufresne si le sujet vous intéresse. Comme vous le voyez, nous avons peu de points communs politiquement. Et je sais que si un jour j'atteins l'âge avancé où on prend son pied à exhiber ses breloques, j'aurais bien peu de plaisir à me rappeler que celle-ci me fut remise par le représentant d'un gouvernement dont j'aurais si ardemment souhaité la chute et la disgrâce. Passons malgré tout une bonne journée. Et c'est signé Wilfrid Lupano.
Mathieu qui est de retour avec vous, l'émission Les Apatrides Anonymes sur les chocs, sur les chocs.ca, donc en direct, en différé, en pré-enregistré de l'UQAM. Donc oui, aujourd'hui je voulais vous parler, c'est un peu inévitable, on en a parlé il y a deux semaines aussi, mais des niaiseries de la CAQ finalement, c'est quand même une fin de session assez rocambolesque, théâtrale et ridicule, et je voulais vous parler un petit peu, il y a des textes intéressants qui sont sortis sur l'analyse un peu de la victoire de la CAQ aux dernières élections. Pourquoi ils sont rentrés majoritaires, c'est quoi vraiment le consensus ou la majorité forte qu'ils ont derrière eux pour aller de l'avant avec des projets de loi qui risquent de passer sous le baillon si c'est pas déjà fait là, en fin de semaine ou au début de la semaine qui commence. Donc, la victoire de la CAQ a été interprétée par beaucoup de monde comme la suite du raz-de-marée des populistes de droite qui déferlent sur l'Occident. Depuis 2016, donc depuis au moins 2012-2013, si on compte certains pays de l'Europe centrale. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que la victoire de la CAQ est vraiment reliée à un raz-de-marée populiste ou en tout cas une victoire du populisme, des identitaires, de l'extrême droite, des fachos, appelez ça comme vous voulez, et des xénophobes surtout, et des racistes? Ben, c'est sûr que c'est remis en question quand même quand on regarde dans ce cas-ci, c'est les risques que produit un article qui s'appelle « Interdiction des signes religieux, deux points, quel consensus? » C'est signé par Nicolas Barichat à la fin du mois de mai. D'ailleurs, il y a une suite dont je vous parlerai sûrement dans deux semaines ou éventuellement. Mais c'est intéressant de lire que oui, M. Legault s'est revendiqué un petit peu de ces enjeux-là qui ont teinté la campagne électorale, qui ont pris plus de place que prévu et que les médias ont monté en épingle, évidemment. Dès sa première conférence de presse, il parle qu'il va prioriser les signes religieux et l'immigration. Il dit que la vaste majorité des Québécois l'appuient là-dedans. Ils viennent de l'élire, majorité forte, blablabla. Le ministre responsable, on peut l'appeler juste Barrette parce qu'il nous fait penser à un autre Barrette. Donc, Monsieur Barrette, ministre responsable, il dit tout le temps qu'il y a un mandat fort de l'électorat et il peut justifier donc qu'il fasse des consultations particulières restreintes, qui décide de pas détailler ses amendements ou de pas faire d'amendement pour les projets de loi et de faire passer le plus vite possible dans un bulldozer législatif, donc ces projets de loi identitaires. Mais si on regarde vraiment les chiffres, selon M. Barichat dans l'article de l'Iris, les sondages nous montrent pas tout à fait ce consensus-là et cette majorité si forte que ça. On parle du 2/3 pour ce qui est des signes religieux, mais on se rend compte quand on analyse un petit peu les données que selon certains sondages, selon certaines études d'opinion, certaines enquêtes qui ont été faites, on peut descendre jusqu'à 41% d'appui et que on parle aussi souvent de 40% jusqu'à 60% d'opposition au projet de loi 21, celui sur les signes religieux. Et que les gens sont assez divisés finalement quand on pose les vraies questions puis on les détaille puis on pose des questions un petit peu plus ouvertes ou des questions un petit peu moins fermées,
moins dirigées
exactement. Donc la mythologie populiste dominante modèle un petit peu là-dessus avec cette analyse là. Donc surtout que l'opposition au projet de loi 21 quand on demande aux gens monte beaucoup quand on commence à parler de sanctions et d'emplois perdus. Et quand on parle en plus que les tribunaux risquent d'invalider les projets de loi, l'opposition, comme par hasard dans les sondages, ça dépend ce qu'on demande, hein, comme tu disais, monte. Donc, c'est sûr que la victoire majoritaire de la CAQ est due à notre fameux système électoral distorsionné. On rappelle qu'il y a eu 37% des voix de ceux qui se sont exprimés et 24,5% des gens de l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Et là, ils se targuent d'avoir donc une super majorité. Donc, c'est basé là-dessus, leur fameuse majorité forte, donc le vote populaire. Mais de ceux et celles qui ont voté pour la CAQ, la CAQ, se demande-t-il, combien étaient motivés par la position sur les signes religieux? Et là, on se rend compte que pas beaucoup. Avant la campagne de 2018, on parle que les enjeux de identitaire, par exemple, je me retrouve dans mes notes là, que le trio immigration, langue, laïcité arrivait dans les dernières des priorités de l'électorat avant et pendant la campagne électorale. Mais même que l'environnement, qui n'était pas dans le programme de la CAQ, était plus populaire dans les enjeux pour l'ensemble des Québécois et Québécoises. Et que la CAQ a commencé à monter en 2017, et surtout en 2018, et que vraiment la raison pour laquelle ils ont monté dans les sondages et qu'ils ont eu beaucoup de votes aux élections, c'est vraiment en lien aux frustrations par rapport aux mesures d'austérité, aux scandales de corruption libéraux et un rejet plus général des vieux partis. Ça, c'est quand on étudie les sondages.
Le fameux changement.
Le fameux changement, tout le monde sauf les libéraux. Donc, c'est à peu près ça. Donc, l'enthousiasme pour le programme teinté d'identitarisme de la CAQ est plus ou moins, disons, un élément important. Faut dire aussi que la colère et l'exaspération face au gouvernement libéral étaient très claires dans les sondages. La frustration envers les libéraux était surtout aiguë chez les francophones de la banlieue de Montréal, de Québec et dans les régions. Mmh. Et pour qui ont voté ces gens-là?
Pour le changement.
Pour le changement, donc pour la CAQ, c'est ça exactement. Donc c'est ces gens-là, ces segments d'électorat, guillemets, qui les ont propulsés vers la victoire, entre guillemets. Ça pour dire que les sondages post-électoraux, si on y va, parce que je vous ai parlé avant les élections, pendant les élections, donc à la fin de 2018, les enjeux identitaires étaient secondaires, encore une fois, dans les priorités. Quand on demandait aux gens, c'est quoi la principale raison pourquoi vous avez voté pour la CAQ, seulement 2% parlaient de la position de la CAQ sur l'immigration et moins d'1% sur les signes religieux.
Mais qu'est-ce que les gens nommaient à ce moment-là?
Le changement, l'économie, l'éducation, la santé, même l'environnement, même si la CAQ avait rien dans son programme. Okay. Et près des deux tiers ont plutôt cité le besoin de changement, l'envie de sortir les libéraux, ou l'impression que la CAQ représentait le moindre mal. Et comme les gens voulaient pas du BQ, qui est l'autre parti traditionnel, ben, en tout cas, on fait de la politique un peu post, après les résultats, on les analyse. Ouais, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Donc, en terminant, malgré la promesse largement diffusée en début de campagne d'interdire le port de signes religieux aux employés de la fonction publique en position d'autorité, un des derniers sondages en 2019 montre en clair que l'enjeu était presque totalement absent de l'esprit de l'électorat caquiste quand il était temps de voter pendant la campagne électorale. Donc, le vote pour la CAQ apparaît d'abord et avant tout comme un vote négatif. Bon, ça, on peut dire négatif contre libéraux, négatif parce qu'ils ont un programme identitaire qui est un peu aberrant, mais on reste dans le négatif selon des politologues. Pardon. Je vais terminer avec la conclusion de l'article qui est quand même intéressante de M. Barisha, je vous répète son nom. La couverture médiatique de cet enjeu donne fréquemment l'impression que la plupart des Québécois réclament à corps et a crié une interdiction des signes religieux dans le secteur public. Et pourtant, les sondages successifs montrent que l'obsession de la droite identitaire d'interdire le port du hijab au nom de la laïcité, au nom de la laïcité, ne correspond pas aux préoccupations politiques d'une large portion de la population. Que la CAQ ait fait de cet enjeu sa priorité législative ne répond qu'au vœu d'une minorité xénophobe qui tente de se faire passer pour le peuple québécois, une mascarade qui ne dure que depuis trop longtemps. Bon, c'est une opinion comme une autre. On sait quand même que la xénophobie ou les enjeux identitaires sont présents, mais ça remet en perspective un peu les choses. Et dans une autre émission, il y a une autre suite à cet article-là qui parle d'autres sondages depuis le début des commissions parlementaires et des projets de loi. Fait que je vous donnerai, puis l'analyse vient avec, donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Donc, dans une prochaine émission. Donc, si vous voulez aller voir ça, c'est sur le site de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information
socio-économique.
Oui, merci. pour faire le lien avec ma petite chronique sur la CAQ, c'était le groupe succès souvenir du groupe punk québécois Amnésie, début des années 90, la toune Regarde ce qui se passe, une toune très engagée, très politique, comme on aime en avoir de temps en temps.
Bien sûr.
Bien sûr, regarde ce qui se passe, Marie-Ève.
Oui, et ce qui se passe cette semaine ou dans les jours qui viennent au calendrier antiraciste, je vous amène d'abord voir une expo, une exposition d'art visuel qui s'intitule « Invisible Body as Reflective Sight ». C'est une exposition qui aborde la question de la violence sexuelle dans une perspective d'émancipation et de résistance grâce au travail de 6 artistes sélectionnés. La principale question qui guide cette exposition est la suivante. Comment le corps peut-il être employé de manière artistique pour comprendre, exposer, défier et endiguer la violence sexuelle? Les œuvres vont questionner d'autres aspects de cet enjeu-là, offrir des discours alternatifs aux discours dominants sur la violence sexuelle et vont tenter de présenter de possibles méthodes pour prévenir et démanteler la culture insidieuse de la violence sexuelle présente dans notre société. Cette exposition a vu jour grâce au programme de l'Université McGill qui s'intitule « Impact, des collaborations pour lutter contre la violence sexuelle sur les campus » qui est fait conjointement avec 13 autres universités et 13 partenaires communautaires. Alors, j'ai pas réussi à trouver jusqu'à quand, malheureusement, l'exposition est... je sais qu'elle est en cours, mais la date de fin, j'ai pas réussi à trouver l'information. En revanche, mercredi prochain, le 19 juin, à 16h30, il y aura une conférence des commissaires et de la directrice d'Impact. Mercredi, donc, le 19 juin, 16h30. C'est à la Galerie McClure du Centre des arts visuels. C'est à Westmount. Deuxième événement. Depuis l'hiver 2018, un groupe composé principalement d'étudiantes et d'étudiants en sciences humaines au Cégep Marie-Victorin se réunit pour discuter d'histoire. À l'origine, il s'agit en fait d'un cercle de lecture. Le cercle, à l'origine, devait exister seulement pour une session, alors que là, il en est à sa troisième session. Les rencontres s'organisent toujours autour d'un ouvrage important en lien avec l'histoire de l'esclavage. Essentiellement, les membres vont discuter de textes lus par tous et toutes. Les lectures vont parfois être complétées par un visionnement de film ou un documentaire qui vont venir enrichir les réflexions. Et depuis le mois de mai, les rencontres ont lieu à la librairie Racine, qui est située à Montréal-Nord. Le cercle de lecture cherchant ici à davantage impliquer les communautés des quartiers Montréal-Nord et aussi Rivière-des-Prairies. Donc, les lectures jusqu'ici ont porté sur plusieurs époques, là, de l'Antiquité à l'histoire contemporaine du Canada et des États-Unis. Il y a été autant question d'économie, de sociologie, des dynamiques politiques, de la place des femmes dans la société, de l'impérialisme, du lourd héritage du colonialisme également et des idéologies des arts. Puis chaque rencontre, les participants et participantes font des liens avec ce qui se passe aujourd'hui à Montréal, au Québec et au Canada. Donc, les gens sont invités à participer. C'est des discussions qui ont lieu devant public et avec le public. La prochaine rencontre a lieu jeudi prochain, le 20 juin à 19h. Comme je le disais, c'est à la librairie Racine et les discussions cette fois-ci vont porter autour de l'ouvrage de C.L.R. James, Les Jacobins Noirs, Toussaint, l'ouverture et la révolution de Saint-Domingue qui est publié aux éditions Amsterdam. Et dernier événement, il s'agit d'un débat cette fois-ci qui est présenté par Diversité artistique Montréal qui aura lieu au Théâtre aux Écuries. En fait, c'est présenté dans le cadre de la deuxième édition de sa série « Réflexion en trois temps ». C'est le troisième et dernier débat qui va avoir lieu, dont la thématique est « Art engagé, le coût de la résistance ». On va parler de différentes questions comme « Où sont diffusées, quand elles le sont, les œuvres d'artistes racisés qui s'inscrivent dans une démarche militante ? Est-ce que cette forme d'art nuit à leur parcours et à leur visibilité au Québec ? Quelles sont les répercussions sur leur santé et leurs conditions économiques ? Ce sera une discussion qui sera alimentée par un panel d'artistes et d'universitaires et ça a lieu ce lundi, donc lundi prochain, demain, à 19h30.
Le 17 juin.
Oui, le 17 juin, au Théâtre aux Écuries. C'est situé au métro Fabre. Alors, c'est malheureusement tout pour cette 7e édition des Apatrides Anonymes. Nous vous rappelons que vous pouvez également nous écouter en balado en vous rendant sur notre page sur le site de choc.ca. Nous vous invitons également à visiter notre site internet www.apatridesanonymes.info. Nous serons de retour pour une autre édition le dimanche 30 juin, même heure, même poste. Émission pendant laquelle nous reviendrons entre autres sur la manifestation annuelle Un statut pour tous et toutes qui avait lieu aujourd'hui à Montréal.
Merci Marie-Ève, merci Simon.
Merci Mathieu, merci Marie-Ève.
Merci à vous deux.